Et on démarre cette libre antenne du vendredi avec l'appel de Claire. Bonsoir à vous, Claire.
Bonsoir, Sabine. Je suis très, très heureuse de vous avoir en ligne sur l'antenne.
Merci, moi aussi.
Et pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, pour vous parler de ma fille.
Oui.
Et je pense que j'aurai de votre part des conseils, et des conseils très éclairés.
Mais écoutez, si je peux, j'en serais ravie.
Voilà. Je pense que vous m'aiderez à déplacer l'éléphant, parce que c'est lourd, un éléphant.
Et oui, n'est-ce pas? Mais quelquefois, quand on trouve la bonne manière de le faire bouger, on y arrive.
Je pense que oui, parce que je l'ai souvent déplacé.
Alors, racontez-moi.
Souvent sans l'aide de personne, mais j'ai pas mal de force quand même. Voilà, je vous raconte, je vais évoquer d'abord le parcours de Marie, qui est un parcours particulier. Je vais essayer de le faire rapidement pour vous évoquer ce qui m'inquiète actuellement.
Marie, c'est votre fille, donc.
Marie, c'est ma fille et c'est une enfant qui est handicapée. C'est un soleil. Il faut que je dise que c'est véritablement un soleil.
Comme souvent, ces enfants-là.
Ah si, mais elle est merveilleuse.
Quel handicap a cette ex-petite fille? Parce que j'imagine qu'elle est plus petite aujourd'hui, mais...
Oui.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Alors, Marie est née très prématurément. Elle est née à 6 mois et 3 semaines. Et elle a fait, à l'âge de 7 mois, un syndrome de West. C'est-à-dire une forme d'encéphalite assez sérieuse. Voilà. Alors, je peux vous parler un petit peu de son parcours?
Bien sûr.
Voilà. Alors, je me suis mariée j'ai 62 ans. Je me suis mariée en 1983. J'étais enseignante. D'ailleurs, je suis toujours enseignante. Et à cette époque-là, je n'avais pas vraiment envie d'avoir un enfant. Peut-être pour la raison que finalement, j'avais mes élèves qui s'occupaient pas mal de mon temps, que je les aimais, que je ne me sentais peut-être pas assez mûre pour avoir une enfant.
Mmh.
Et aussi parce que dans mes projets de vie, j'avais envie de profiter, de voyager, de faire plein de choses, du sport, etc. Ce que j'ai fait d'ailleurs pendant plusieurs années, pendant 7 ans. Et en 1989, un petit peu sous la pression de ma famille, qui me disait « Claire, qu'est-ce que t'attends pour avoir un enfant ?» Écoute, maman qui me disait « Ta sœur en a déjà deux, ton frère en a déjà deux, peut-être qu'il faudrait se décider. » Donc, j'ai considéré que c'était probablement vrai et que c'était peut-être pas normal, effectivement, que je ne souhaite pas d'enfant. Donc, en 1990, enfin un petit peu en 89, je suis tombée enceinte.
Et là, vous avez quel âge à ce moment-là?
J'ai 32 ans.
D'accord.
Voilà, donc je tombe enceinte, c'était pas un événement que je désirais vraiment, mais je pensais quand même que c'était quelque chose de beau, Et à 5 mois de grossesse, j'ai eu des contractions très sévères et j'ai été hospitalisée. Et donc je n'ai pas quitté la polyclinique. Et à 6 mois et 3 semaines, Marie est née.
Ils vous ont maintenu comme ça pendant le plus longtemps possible, alors pendant quelques semaines?
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Parce que c'était à 5 mois et demi et Marie est née à 6 mois et 3 semaines.
Ça doit être, ça doit être difficile, ça, moralement.
Le temps où j'ai été hospitalisée, j'avais des contractions, je me sentais quand même pas très très bien.
Oui.
Donc je ne peux pas dire que ça n'a pas été une grossesse, très épanouissante,
ouais.
Et très sereine, voilà.
Oui.
Donc elle naît à 6 mois et 3 semaines, j'avais passé des échographies, on ne m'avait pas parlé particulièrement d'un problème, Marie est partie à l'hôpital de Bayonne, puisque je vis au Pays Basque. Et en fait, je ne suis pas, j'ai eu une césarienne. Bon, je ne suis pas allée de suite à l'hôpital la voir. C'est vrai que j'ai attendu 2 ou 3 jours parce que, bon, je n'étais pas très en forme, j'avais mal. Bon. Et par contre, mon mari et mes parents sont allés à l'hôpital la voir. Et quand ils sont arrivés, elle était en couveuse, bien sûr. Et quand ils sont
Juste pour
arrivés,
qu'on imagine bien, Claire, elle pesait combien cette petite puce quand elle est née?
elle pesait 1,8 kg.
Oui, d'accord.
En sachant que moi aussi, enfin moi, je suis une enfant prématurée, hein, je suis jumelle, et que je faisais exactement le même poids qu'elle.
Ouais.
Et donc elle est évidemment, elle part en urgence en couveuse, et elle va y rester 2 mois. Les premiers jours, donc bien sûr, mon mari est allé la voir avec mes parents. Et quand ils sont arrivés donc en salle où étaient les bébés en couveuse, il y avait un grand branle-bas autour de la couveuse de Marie. Et donc, ben, il n'y avait plus d'oxygène dans la couveuse. Et voilà, donc évidemment, tout était mis en œuvre pour rétablir et remettre cet oxygène.
Est-ce que,
Donc je suis
pardon,
pas.
est-ce que si vous mentionnez ça, est-ce que ça veut dire que ça a une conséquence sur la suite,
Alors,
ce manque d'oxygène-là?
je pense que oui, je pense que oui. Après 2 mois de couveuse, Marie est rentrée à la maison. Tout à fait normal, comme un bébé. D'ailleurs, elle était très, très mignonne. Et je l'ai mise, comment dire, chez une nourrice. Et à l'âge de 7 mois, non, pardon, à l'âge de 2 mois, je suis allée chez le pédiatre qui s'occupait de Marie, qui était un ami de mes parents. Et prenant sa retraite, il m'a dit, bah, écoute Claire, je vais te donner le dossier de Marie, le dossier de l'hôpital, tout ce que j'ai sur Marie. Comme ça, tu pourras le remettre au prochain pédiatre. Que fait une maman, évidemment, ayant eu un accouchement voilà, particulier? J'arrive à la maison et je lis le rapport de l'hôpital et je lis à ce moment-là séquelles d'ischémie cérébrale.
Et personne ne vous
Alors,
avait rien dit.
personne ne m'avait rien dit.
Vous avez dû tomber de haut à ce moment-là.
Alors, comme on dit, le ciel m'est tombé sur la tête et
Oui.
c'est vraiment très, très, très désagréable. Donc, je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire. Cependant, bon, séquelles et cérébrales. Je pensais quand même qu'il y avait quelque
Mais
chose
avec un point d'interrogation ou même pas?
Ah non, même pas.
Même pas, ouais.
Même pas, même pas. Donc, que fais-je? J'appelle l'hôpital et je demande à parler au médecin qui s'était occupé de moi pendant ma grossesse et pendant mon hospitalisation. Et là, il me répond et je lui dis, bah, écoutez, docteur, voilà, j'ai lu le rapport de l'hôpital et concernant Marie. Et je lis quelque chose qui me préoccupe. Alors il me dit, mais madame, vous n'avez pas à lire ces rapports. Je ne vois pas pourquoi on vous les a passés. De toute façon, c'est du jargon médical et vous n'avez pas à lire ces rapports.
Oh,
Ben, je dis,
quel manque
écoutez,
d'humanité, c'est terrible.
terrible, terrible. Donc ça a été vraiment un très grand coup de poignard. Mais je lui ai dit, écoutez, c'est mon enfant. C'est mon enfant, j'ai le droit de savoir ce qu'il arrive à mon enfant. Et là, il m'a dit, bien, écoutez, je vais vous passer un autre docteur que je connaissais, qui était extrêmement, que j'appréciais énormément. Et donc, il a, moi, je dis, refilé la patate chaude.
C'est l'expression qui me venait à l'esprit, tout à fait, ouais, j'y pensais.
Voilà. Donc, j'ai eu ce médecin qui m'a dit, en suivant, ben, écoutez, Claire, venez me voir à l'hôpital, je vous expliquerai. Donc, évidemment, ni d'une ni de deux, je pars à l'hôpital et le médecin m'explique que Marie a eu un problème d'irrigation du cerveau. Je pense quand même que c'était lié, bien sûr, à la naissance prématurée. peut-être au manque d'oxygène dans la couveuse.
Oui, oui, oui.
Disons que je ne suis pas procédurière. Avec mon mari, nous n'avons pas du tout,
Chercher à creuser par là.
Voilà. Donc, il m'a dit, écoutez, Claire, oui, effectivement, il y a des zones du cerveau qui ont été abîmées, endommagées. Donc, Marie aura probablement des séquelles. Psychomotrices, c'est sûr. Après, vous savez, je ne peux pas vous dire exactement parce que le cerveau, c'est quand même quelque chose de compliqué. Il y a des zones qui prennent le relais d'autres zones. Donc, c'est difficile, mais c'est certain qu'elle aura un handicap.
Pardonnez-moi, vous allez continuer à nous raconter votre histoire dans un tout petit instant, s'il vous plaît. On doit marquer une petite pause. Ça semble très calme au standard là, en ce début d'émission. Alors profitez-en si vous souhaitez nous appeler. 3921, Estelle et Maxime attendent vos appels. Claire, vous nous disiez juste avant la pub que le médecin a commencé à vous dire ce jour-là que la petite aurait des séquelles, sans pouvoir évidemment être plus précis parce que le cerveau n'est pas un organe que nous connaissons parfaitement et que la nouvelle n'était pas bonne, mais pas très précise, quoi, en fait.
Exactement, exactement.
Donc là, vous faites quoi à ce moment-là ?
Alors, je rentre à la maison avec Marie, mais qui était vraiment une belle enfant, hein. Vraiment, physiquement, c'était une belle enfant. Et
rien ne se voyait quand elle bougeait, quand elle ouvrait les yeux, quand elle mangeait, non ?
Non, parce qu'elle était toute petite. C'était vraiment un bébé. Elle tenait pas assise, etc. Et c'est vrai que quand je l'ai couchée, je lui avais installé un mobile au-dessus de son lit. Elle suivait son mobile et bon, vraiment, rien ne semblait, on va dire, anormal.
D'accord.
Cependant, quand je suis rentrée à la maison, je ne l'ai plus regardée avec les mêmes yeux, avec le même regard, avec plein de points d'interrogation. Et vraiment le ciel qui m'était tombé sur la tête.
Et une boule au ventre, j'imagine.
Une boule au ventre, tout à fait. Bon, Marie a grandi, voilà, elle a grandi à la maison. J'ai repris le travail parce que je me suis dit que c'était important pour moi de reprendre le travail, un travail que j'aime beaucoup. Et Marie, je l'ai placée chez une nounou. Un jour, elle a constaté que Marie convulsait, donc elle n'a plus voulu la garder, donc ça aussi c'était un autre choc. Il a fallu que je trouve une autre gardienne qui était vraiment extraordinaire. Et à l'âge de 7 mois, je l'ai réveillée un matin et elle faisait des convulsions, mais c'était vraiment, on voyait qu'elle souffrait. Donc, j'ai appelé l'hôpital. Elle a été hospitalisée. Et elle a été prise en charge. J'ai attendu avec mon mari en salle d'attente. Et au bout d'un moment, une infirmière est venue me trouver et m'a dit « Madame Fedutelli, pardon, Claire, c'est vous ?» Et je dis « Oui, c'est moi. » Et elle me regarde et me dit « Eh bien, vous n'avez vraiment pas de chance. » Donc,
ça aussi, c'est toujours, ils ont toujours les mots qu'il faut.
Moi, je me suis dit, innocente quelque part, bien que sachant qu'il y avait un problème, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est grave, qu'est-ce qui se passe? Bien. Puis, rester un mois à l'hôpital, sous traitement anticonvulsif. Et elle est sortie de l'hôpital et elle a grandi à la maison. Et bien évidemment, à cette époque-là, j'avais une amie qui avait une enfant du même âge que Marie. Et on se voyait régulièrement. Et je voyais bien que Marie n'avait pas la même attitude que sa petite fille, que je la mettais sur un canapé, elle tombait, etc.
Et quand on compare, on peut effectivement percevoir des différences plus facilement, quoi.
Oui, voilà, exactement. Donc, effectivement, ça aussi, ça me faisait quand même mal au cœur parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi
elle? Bon, c'est ma première enfant, mais bon. Je ne me posais pas trop ces questions, pourquoi elle? Parce que je ne savais pas encore quand même la gravité. Marie a grandi, bon, entourée d'amour et on s'en occupait bien et bien sûr ça a modifié complètement notre vie personnelle, celle de mon mari et la mienne, parce que j'étais une personne très investie dans mon travail, très, très sportive, et qu'à partir de ce moment-là, bien sûr, comme des parents qui ont un enfant, ben, on doit momentanément...
mettre beaucoup de choses entre parenthèses. Dites-moi Claire, vous ne mentionnez pas beaucoup votre mari, comment est-ce que lui il a réagi ces premières semaines, ces premiers mois, comment il a vécu ça? Absent, présent
Oui, présent. Il a toujours été présent. Il a toujours été présent, d'autant plus que lui, il souhaitait un enfant. Mais il était là. Il était là, il s'en occupait, il n'y avait aucun problème. Mais moi, je pense que j'étais beaucoup plus remuée. Mais en fait, je n'en veux pas, parce que lui, il ne savait pas, tout comme moi, comment ça allait évoluer. Et donc, elle a grandi, alors petit à petit, étant handicapée, parce qu'elle ne se tenait plus et tout ça, j'étais suivie, j'allais régulièrement à l'hôpital, elle a eu d'abord des soins à domicile au niveau de la kiné, etc. Et au bout de 2-3 ans, on m'a dit, écoutez, Claire, il faudrait...
Ah, pardonnez-moi Claire, ça a coupé. On a eu une micro-coupure. Après 2-3 ans, vous avez dit
Après 2-3 ans, on m'a signalé qu'il faudrait que je la mette que je la place dans un centre.
Alors juste pour qu'on comprenne bien, à ce moment-là, quelles sont concrètement ces difficultés physiques ou intellectuelles
Alors ses difficultés physiques, c'était que elle ne tenait pas assise, elle ne tenait pas debout, elle ne marchait pas, et au niveau du langage, je pense qu'à l'époque elle arrivait à dire papa maman, je suis pas sûre, hein. Mais on voyait qu'elle ne parlait pas, comme une enfant, de 3 ans. Donc, Marie, alors moi, évidemment, j'ai dit, mais non, mais c'est pas possible, elle ne peut pas rester chez la gardienne, elle est bien chez cette gardienne. Et donc, on m'a dit, vous savez, Claire, on peut la mettre progressivement, vous allez la mettre une journée, puis après, vous la mettrez une journée, une nuit, donc 2 jours. Et puis, petit à petit, le temps, les mois sont passés et... Petit à petit, bien sûr, le but, c'était de mettre Marie, la semaine au centre. Et voilà.
Ça lui apportait d'être au centre? Qu'est-ce qu'il lui faisait avec elle?
Alors, elle avait quand même des séances de kiné. Elle avait, je pense, des activités ou des séances d'ergothérapie, de détente.
D'accord. Voilà. Une vraie prise en charge, quoi.
Une vraie prise en charge. Et c'est vrai que ça a été très difficile pour moi, parce que déjà, la laisser une nuit, ça a été très, 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 très difficile.
J'imagine.
Et le centre insistait bien sur le fait que ça allait me faire du bien à mon mari et à moi, de pouvoir disposer de soirées où on aurait pu aller au cinéma, au restaurant, etc. Alors ça a été très difficile, ça, mais on a passé le cap et on s'est dit finalement c'est bien. Voilà.
Souffler un peu aussi, oui, bien sûr.
Oui, finalement, on appréciait quand même. Et puis, je retrouvais avec ma fille avec beaucoup de plaisir. À cette époque-là, elle rentrait tous les soirs. Hein. C'est petit à petit que, on nous a amenés à la laisser dormir plus d'une nuit, 2 nuits, 3 nuits, etc. De toute façon, elle rentrait tous les week-ends. Elle rentrait souvent le soir et tous les week-ends.
Et comment vous la trouviez?
Je la trouvais pas mal.
Ouais.
Je la trouvais pas mal.
Il y en a un qui veut participer derrière vous, là, j'entends.
Oui. Alors, justement, vous demandiez si nous avions des animaux. Oui, j'ai une petite chatte qui est un amour. C'est un amour. Elle sent que je ne suis pas très, très bien actuellement. Et elle est tout le temps sur
moi. Elle
ne
vous lâche pas.
Là. Elle ne me lâche pas. De toute façon, elle ne m'a jamais lâchée. Mais là, encore plus. Voilà. Donc, à l'âge de 13 ans, On m'a dit, bon, maintenant, Marie doit avoir une autre orientation, puisque dans ce centre, on gardait ses enfants jusqu'à l'âge de 13 ans. Et donc, elle est passée dans un établissement où on accueillait des adolescents. C'était aussi bien, il y avait un bon suivi. Là aussi, bon, je la récupérais quand même souvent, nous la récupérions souvent le soir.
Quel était son degré d'autonomie? Est-ce qu'elle tenait assise, debout? Est-ce qu'elle parlait bien?
Non.
Non, toujours pas?
Non. Là, elle était sur un fauteuil handicapé. Hein.
D'accord.
Elle était sur un fauteuil roulant. Hein.
Ouais. Et au niveau du langage?
Et au niveau du langage, c'était, vous savez, Sabine, je me souviens même plus, en fait. Comme si j'avais voulu un petit peu effacer tout ça de ma mémoire. Je ne saurais pas vous dire. Peut-être que, probablement, que mon mari vous aurait dit oui à ce moment-là, elle faisait ci, elle faisait là. Moi, j'avoue que j'ai zappé un petit peu. Mais il y avait quand même un échange. Il y avait un échange et c'était une enfant pas du tout capricieuse, très, très souriante, très heureuse de vivre. Donc, l'étape suivante, ça a été à l'âge de 23 ans. C'était vraiment l'âge butoir. J'ai eu un avis de l'orientation de la MDPH qui m'a dit Claire, il va falloir mettre votre enfant maintenant dans une maison d'accueil spécialisée. Et donc, on m'a dit, le centre où était Marie m'a dit, bon, écoutez, Claire, il y a une place dans un établissement, pas loin de Biarritz, et nous vous proposons de visiter cet établissement. Ce que nous avons fait tous les deux, avec mon mari, nous sommes allés visiter cet établissement, qui est une très belle maison basque, moi, déjà, de toute façon, j'avais une boule au ventre, rien que de savoir qu'elle allait changer. De toute façon, à chaque changement, c'est un déchirement. On m'a fait visiter le service où elle devait aller, où il y a à peu près une douzaine de résidents. Et je suis rentrée avec mes lunettes de soleil. J'ai regardé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ma fille peut pas aller là, c'est pas possible, elle va régresser.
L'imaginer dans ce contexte-là, c'était trop difficile.
Je ne pouvais pas. Mmh. Et Marie, justement, retrouvait une ancienne résidente de l'établissement précédent. Et donc, je l'ai vue. Donc, il y avait quand même cet enfant-là qui était une connaissance de Marie, qu'elle aimait beaucoup, d'ailleurs. Et bon, j'avoue que je pleurais. J'avais les larmes qui coulaient et ça a été épouvantable pour moi. J'ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas la mettre là. Et à partir de ce moment-là, j'ai bien évidemment ma tête était ailleurs qu'à préparer mes cours.
Est-ce que vous aviez une autre option à ce moment-là?
À ce moment-là, comme je me sentais pas bien et que je me disais, mais je peux pas la mettre là. Et j'étais très mal, donc j'ai été arrêtée. Et pendant une semaine, Sabine, je n'ai pas quitté mon lit, je n'ai fait que pleurer. D'autant plus que les premiers jours où on l'a mise dans ce centre, à l'essai, parce qu'on l'a mise finalement là, à l'essai, j'ai dit de toute façon, elle peut toujours essayer, mais elle ne restera pas là.
Claire, nous allons bien sûr poursuivre cette conversation, mais on va d'abord laisser passer les infos, si vous le permettez.
Je suis un peu longue, peut-être.
Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a les infos qui arrivent, donc on doit marquer une pause. Sinon, je vais me faire gronder. Et puis je vous récupère juste après les infos. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sabine.
À tout de suite. 23h05, on se retrouve pour la deuxième partie de cette libre antenne. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin et vous pouvez continuer à nous appeler tout au long de l'émission. À n'importe quel moment, vous composez le 3921 et vous tomberez sur Estelle ou sur Maxime qui vous guideront jusqu'à moi dans ce beau studio d'Europe 1 aux couleurs, aux lumières tamisées. Si vous avez envie de parler de votre homosexualité, par exemple, si vous avez envie de parler de vos problèmes de couple, d'enfants, de vos soucis au travail, d'un deuil difficile à faire ou de toute autre chose, eh bien, appelez-moi au 3921. Ici, nous parlons de tout avec bienveillance et sans jugement. Pour intervenir par SMS, donner votre point de vue, peut-être un conseil ou demander d'être mis en relation, vous faites le 739-21 suivi du mot nuit en majuscule et vous écrivez votre message. Enfin, si vous souhaitez nous joindre par mail, une seule adresse, libreantenne@europe1.fr.
Vous aussi venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Claire, merci d'avoir patienté. On en était juste avant les infos à ce nouveau centre où on vous proposait de mettre votre fille Marie qui avait 13 ans.
Oui.
Et pour vous, c'était un véritable...
Excusez-moi Sabine. Là, elle avait 22 ans.
Ah, pardon, j'avais raté cette marche-là.
En fait, c'était le troisième centre.
La troisième marche,
centre. D'accord. Voilà.
Et donc, j'en étais à ce déchirement que vous avez ressenti à tel point que vous avez sombré dans une dépression.
Tout à fait. Et pendant une semaine, je n'ai fait que pleurer. Je suis restée au lit, je ne pouvais plus me lever. Et je n'ai fait que pleurer.
Qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là?
Dans ma tête, je refusais totalement de la voir dans un centre comme ça. Pour moi, c'était terrible. Et en même temps, je ne me voyais pas arrêter de travailler parce que je me disais, mais... quand même dans un centre, elle a des soins, des séances de kiné, il y a quand même une ouverture aussi. Et moi, je me sentais peut-être pas capable de m'en occuper tout le temps, bien que vraiment cet enfant, j'ai appris à l'aimer, mais de jour en jour. Et là, c'est extraordinaire. La relation que nous avons est extraordinaire. Et c'était tout noir, c'était terrible pour moi. J'étais devant un dilemme. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, bon, mais Claire, ça suffit maintenant. Tu ne vas pas faire avancer les choses. Donc, je me suis levée. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant, tu vas prendre un cahier. Tu vas regarder tous les centres qu'il y a. Tu vas regarder s'il n'y a pas d'autres orientations qui conviendraient à Marie. Et je suis partie à droite, à gauche. J'ai pris des rendez-vous, j'ai visité des centres, j'ai comparé les différents types de centres pour arriver quand même à la conclusion que c'était vraiment une maison d'accueil spécialisée qu'il fallait à Marie. Ouais. Donc voilà, de toute façon, la MDPH ne donne pas des orientations comme ça. Donc voilà. Donc, Marie a passé 15 jours de stage entre-temps. Et quand j'allais la voir, je disais mais aux aides-soignantes, je leur disais, vous savez, elle ne va pas rester ici, Marie. Hein. Ce n'est pas possible, elle ne va pas rester ici. Et quand je suis revenue de toutes ces démarches que j'avais faites, j'ai rencontré le directeur qui m'a dit, bon, écoutez, Madame Vitelli, on voit bien que vous n'avez pas envie de mettre Marie dans ce centre. Et j'ai dit, écoutez, monsieur le directeur, j'ai fait des démarches personnelles. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est l'orientation qu'il lui faut.
Et oui, il n'y avait pas beaucoup de choix, de toute façon.
J'avais pas beaucoup de choix. Mmh. Et j'avais d'autres centres, mais qui étaient plus loin. Et l'avantage, c'était quand même que c'est à 20 minutes de Biarritz. Donc, c'était assez pratique aussi en prenant l'autoroute. Et où j'ai vraiment, je me suis dit, c'est là qu'il faut qu'elle reste. C'est que la psychologue du centre a vu Marie et lui a dit, écoute Marie, est-ce que tu veux rester à Biarritz-Seignan? Est-ce que tu veux rester dans ce centre? Et elle lui a répondu, oui, mais je ne veux pas faire de peine à maman. Quand la psychologue m'a répété ce qu'avait dit Marie, j'ai dit, bon, maintenant ça suffit, Claire, hein, c'est Marie qui choisit. C'est bon. Et là, il n'y a plus eu aucun problème. Je l'ai mise dans ce centre.
Vous avez lâché prise, là.
Et j'ai complètement lâché prise grâce à Marie. Donc Marie m'a aidée, Marie m'a toujours aidée hein, dans les moments difficiles. Et donc, bon, je passe, les années ont passé. Bon, Marie, ça fait maintenant, pour ainsi dire, ça fera 8 ans au mois de janvier qu'elle est dans ce centre. Alors, ce qui me préoccupe vraiment, c'est que, bon, Marie, entre-temps, nous avons divorcé avec mon mari, parce que nous avons eu un projet de partir au Maroc pour ouvrir des chambres d'hôtes. Nous sommes allés pendant le mois d'août avec Marie pour voir. Voilà, nous avions acheté en fait même une casbah. Et on a rencontré beaucoup de monde et tout ça. Et je devais même avoir, en attendant que les travaux se fassent, prendre un poste d'enseignante. Et plus les jours passaient, plus je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. On regarde Marie comme une bête. Je pensais que quand même au Maroc, voilà, je pouvais me promener dans les rues. C'était à Ouarzazate, bon, sans avoir des regards comme je peux en avoir en France au début. Hein. Bon, au début, ça me faisait beaucoup de mal, mais bon. Et puis, j'ai trouvé que c'était très compliqué. Et je me suis dit, non. C'est pas possible, Claire, c'est pas possible. C'est pas la même culture. J'avais l'impression que vraiment qu'on nous prenait pour les pigeons, en fait. Et mon mari voulant terminer sa carrière et me rejoindre après, je ne me voyais pas franchement mener les travaux de la maison d'hôte, avoir Marie, donner des cours dans une école primaire. Et je suis partie au bout de trois semaines. Nous sommes rentrées en France. Normalement, tout était ficelé. Je devais repartir pour la rentrée scolaire 15 jours après. Et de jour en jour, je me disais, mais non, c'est pas dans un pays comme ça que je peux partir. J'ai une liberté d'enseignement en France. Il me faut toujours des projets. Je dois faire des projets avec mes élèves. Et franchement, dans un pays comme celui-là, je ne voyais pas. Et puis, étant donné que l'on considère la femme comme pas grand-chose, en fait, j'ai, au dernier moment, enfin, une semaine avant de partir, j'ai dit à mon mari, non, j'ai dit, je ne pars pas dans ce pays. C'est pas le pays qui me convient. Ce qui a un petit peu, comment dire, rendu les choses difficiles. Et finalement, ben, voilà, nous avons divorcé avec mon mari. Voilà. Donc, mais mon mari s'est toujours bien occupé de sa fille. Ça, il aime sa fille et il s'en occupe bien. Voilà, alors là, nous avons une garde partagée, un week-end sur deux. Nous partageons les vacances aussi.
Ça veut dire qu'il n'est pas allé s'installer là-bas, alors, votre mari ?
Ah, il n'est pas allé.
Ça semblait compliqué, sinon, ouais.
Oui, très compliqué. Non, il ne s'est pas installé là-bas. Donc voilà, on repartait à zéro sur un autre projet. Vous verrez que je n'ai pas tout à fait abandonné ce projet de partir avec elle. Et donc, pour arriver au problème qui me préoccupe énormément, c'est que le week-end, quand j'ai Marie, je la ramène au centre le dimanche soir. Et on m'autorisait à porter à manger, à lui donner à manger dans sa chambre, à la mettre aux toilettes, à la coucher, lui faire un câlin, etc. Et un jour, j'arrive au centre et puis je dis à l'aide-soignante, mais je ne comprends pas, je ne trouve pas son siège de propreté. Et l'aide-soignante me dit, mais Claire, elle n'a plus de siège de propreté parce qu'il a été utilisé pour une autre résidente. On a fait adapter un siège moulé sur ce siège de propreté, donc elle n'en a plus. Alors là, aussi, coup de poignard. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Marie va devoir faire ses besoins dans une couche, tous ses besoins dans une couche. Ah, je dis, moi, je demande à ce qu'elle ait un siège de propreté, c'est pas possible, on ne peut pas, elle est habituée, on ne peut pas. Bon, ça fait un an de ça, Sabine, elle n'a toujours pas de siège de propreté. On passe. Arrive le confinement. Le confinement, Marie, donc le centre a été fermé à toute visite, confinement. Je n'ai pas vu ma fille pendant 4 mois.
Est-ce qu'il y avait au moins des contacts en visio, oui.
Voilà. Alors, une fois par semaine, et puis nous appelions, mon mari et moi, nous appelions notre fille tous les jours. Alors, nous nous étions organisés pour que moi, je l'appelle en début d'après-midi, et mon mari l'appelait vers 5 heures en fin d'après-midi. Ce confinement, finalement, ça a été très difficile parce que j'ai vendu mon appartement à Biarritz, j'ai acheté une maison. Donc, j'ai été obligée au mois de mars de préparer mon déménagement. Et en même temps, j'avais maman à la maison qui présente tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer, qui répètes, etc. Mais vu qu'elle n'avait plus d'assistante de vie, je l'ai gardée un mois et demi. Et j'étais très contente finalement d'être avec elle et de ne pas être toute seule.
Claire, on marque une courte pause à nouveau, s'il vous plaît. Et on se retrouve tout de suite. Merci.
D'accord.
Claire, c'est à vous.
Excusez-moi Sabine, peut-être vous trouvez que c'est un peu long.
Allez-y,
je vais essayer. Voilà, je vais très vite, je vais arriver là maintenant à l'éléphant qu'il faut déplacer. Donc pendant le confinement, donc ben voilà, heureusement nous pouvons avoir ces discussions, appeler notre fille qui parle quand même de mieux en mieux, hein, qui elle comprend tout, elle parle de mieux en mieux. Nous avions convenu donc d'horaires pour pas appeler les deux en même temps. Un jour, j'oublie où j'étais occupée pour appeler à 14h et j'appelle à 17h. On me passe Marie et Marie me dit « Mais maman, je suis au lit. » « Marie, tu es au lit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es malade ?»« Non, 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 non. » Elle me dit « Non, 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 non. » Elle me dit « Je vais manger au lit. » »« Mais à quelle heure tu vas manger au lit ?» Donc, on la faisait manger à 5h30 au lit, dans sa chambre. Et je demande à parler à l'aide soignante. Je dis, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Marie est au lit, mais c'est pas normal d'être à 17h au lit. Mm-hmm. Elle me dit, aujourd'hui, elle était fatigable. Ah bon, je savais que fatigable, ça ne veut pas dire fatiguée, mais bon, elle peut montrer des signes de fatigue, effectivement. Le lendemain, qu'est-ce que je fais comme une mère normale? Je rappelle à 17h. Et à 17h, Marie me dit « Maman, je suis au lit. » Et donc là, je demande à parler à l'aide-soignante. Je dis « Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Elle est encore au lit à 17h ?» Bon, écoutez, je voudrais parler à la directrice. J'appelle la directrice de l'établissement qui me dit « Écoutez, je ne suis pas au courant. Je vais aller voir ce qui se passe sur le service. »
Bon. Mmh, c'est bizarre.
J'étais quand même très étonnée. Mmh. Je vous tiens au courant. Le troisième, le surlendemain, je vous rappelle, Marie était encore couchée à 17h. Je tombe sur une soignante qui me dit « Écoutez, Claire, vous n'allez pas commencer. Hein. » Alors je lui dis « Mais comment ? Comment ? Vous voyez, vous entendez comment vous me parlez ?» Je lui dis « Mais de quel droit vous me parlez comme ça ?» Je lui dis « Moi, je demande des explications. Je veux savoir ce qui se passe. » Pourquoi Marie est couchée à 17h? Est-ce que c'est lié au confinement? Elle me dit, ça fait 2 ans qu'elle est couchée à 17h. Ça veut dire que, depuis, la cadre de santé m'a dit que ça faisait 3 ans. Depuis l'âge de 27 ans, Marie est couchée à 17h.
Mais comment vous avez pu ne pas le savoir, ça?
Et je n'ai pas pu le savoir, puisque Marie, je l'ai ramenée le dimanche. Je venais la chercher le vendredi après-midi après mes cours et que Marie était prête à partir.
Et elle ne vous l'a jamais dit, elle?
Elle ne me l'a jamais dit. Alors, Sabine, coup de poignard. Mais coup de poignard.
Pour quelle raison ils font ça? Pour se débarrasser d'elle? Parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper?
C'est ce qu'on peut penser. C'est sûr que c'est ce qu'on peut penser. Mais moi, j'étais très étonnée parce que c'est un centre quand même où on s'en occupe bien. Bon, le personnel soignant est vraiment très bien au niveau nursing, c'est très bien. Mais j'avoue que là, actuellement, ça va pas du tout. Il y a eu un changement de direction aussi. Marie a de moins en moins de sorties. Elle allait au restaurant. On l'a menée au ski. On l'a menée à la plage. Bon, et tout ça, elle n'a plus rien. Tout ça,
donc là, il y a gros doute. Quoi. Vous apprenez que votre fille est mise de force au lit en fin d'après-midi depuis des années.
Oui. Oui.
Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que vous faites?
Et alors, ce qu'on m'a dit quand même, c'était « Mais Madame Vidutelli, nous avons une population vieillissante. » Et j'ai dit « Mais attendez, mais Marie, elle a été mise au lit, elle avait 27 ans, Marie. Elle est quand même pleine de vie. Elle est joyeuse, elle a envie de vivre. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris rendez-vous lundi dernier. C'est pour ça que j'ai appelé dimanche soir, parce que je pensais peut-être vous avoir pour que vous me donniez des conseils pour la réunion que j'ai eue, la rencontre que j'ai eue lundi. Donc, parce que je l'ai demandé. Je le demande depuis des mois, cet entretien. Mmh. Donc, j'ai eu un entretien avec le personnel de santé. Donc, il y avait la cadre de santé, le médecin, l'ergothérapeute, le kiné, la kiné et la psychologue.
Et vous arriviez, dans quel état d'esprit, vous ?
J'arrivais dans un état d'esprit de mettre tout à plat, de toute façon, et avec une certaine colère quand même, et inquiétude. Hein. Mais de toute façon, je l'avais déjà dit pendant le confinement, écoutez, il y a des choses qu'il faut régler, ça ne va pas du tout. Entre-temps, quand même, j'ai réussi à voir, à contacter des personnes, comme la directrice, l'ancienne directrice d'une masse, dans la ville où je travaille et qui était réputée pour être une excellente directrice mettant au centre le bien du patient. Et donc, quand je lui ai raconté ce qui se passait, elle m'a dit « Mais Madame Claire, j'hallucine. Ce que vous me racontez, j'hallucine. »
Ouais, c'est intéressant d'avoir un point de vue de quelqu'un qui est au centre de tout ça.
Ah, tout à fait. Ouais. Et donc, elle m'a dit « Bon, voilà, dans un centre comme une masse, il doit y avoir un projet d'établissement, il doit y avoir un projet individualisé de votre petite Marie, de votre grande Marie, et il doit y avoir un conseil de la vie sociale. Votre fille doit avoir deux référentes. » J'ai dit, écoutez, j'ai jamais entendu parler de référentes. Le projet de l'établissement, je l'ai eu au départ quand Marie est rentrée, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qu'il n'est pas à jour. Et quant au projet individualisé, écoutez, j'en ai peut-être eu un au début quand Marie est arrivée. Et depuis, je n'ai aucun projet. Or, apparemment, les choses évoluent puisqu'on me la couche à 17h et qu'elle fait ses besoins dans la couche.
Alors, de cette réunion, qu'est-ce qui ressort ?
Qu'est-ce qui ressort ? Eh bien, il ressort que si on lui laisse la couche, c'est que suite à une échographie en 2013, le médecin a décrété qu'elle avait une vessie, je ne sais pas comment vous dire, qui ne fonctionnait pas. Mais effectivement, Marie, quand elle était petite, elle me disait « Mais maman, je ne sens pas venir. » Alors que maintenant, Sabine, et depuis plusieurs années, elle me demande d'aller aux toilettes. Moi, j'ai un siège de propreté et elle me demande d'aller aux toilettes. Elle va 3 à 4 fois par jour aux toilettes.
Donc vous pensez que ça ne se justifie absolument pas ?
Mais non, ça ne se justifiait pas. Quant au coucher, bon, écoutez, moi, j'habite dans le sud de la France. Moi, je vis à l'heure espagnole. Hein. Je suis professeure d'espagnol, donc c'est le repas à 14h, le souper à 9h, 9h30, 10h. Donc Marie, à la maison, elle se couche tard et elle ne s'est jamais plainte de fatigue à 17h. Mais jamais, c'est une enfant pleine de vie, Marie. Et voilà, donc, j'ai dit, écoutez, je veux voir le projet individualisé de Marie. De quand date son dernier projet individualisé ? Tout le monde était très, très mal à l'aise. Mmh. Mais je leur ai dit, mais juridiquement, vous êtes hors la loi. Mais où vous allez en n'ayant pas de projet pour une résidente ? Où vous allez ? Dans le mur ? Bon, bref. Donc oui, effectivement, il faut qu'on revoie ça, mais vous savez, on a changé de cadre de santé, il y a eu le confinement. J'ai dit, écoutez, le confinement, c'est une chose, ça fait 3 ans que vous couchez Marie à 17h, sans mettre les parents au courant.
Mais il a bon dos le confinement, là, effectivement.
Oui. Alors j'ai dit stop, maintenant, on arrête de parler confinement, parce que ça date de bien avant le confinement. Bon, voilà. Donc, oui, il faut qu'on va faire un projet individualisé, c'est en cours. J'ai dit, mais attendez, c'est en cours, mais mon mari était là, hein, il prenait la parole de temps en temps. Nous voulons le projet individualisé de Marie au plus vite. Nous voulons qu'il nous soit présenté, justifié et validé quelque part aussi par nous. Parce que quand je vous entends parler, il y a une inadéquation totale entre ce que Marie est à la maison et ce qu'elle est au centre. Or, à mon avis, vous ne mettez pas Marie au centre de vos préoccupations. Pour moi, d'ailleurs, j'ai entendu plusieurs fois ce mot « organisation », « organisationnel ». Pour moi, vous mettez au milieu du dispositif le bien-être, entre guillemets, des aides-soignants et du personnel médical. Je comprends, elles ont du travail, je comprends, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, cet établissement, la sécurité sociale paie pour Marie. Moi, je paie pour Marie. Nous payons pour Marie.
Et donc, Claire, qu'est-ce qui ressort de cette réunion ?
Il ressort de cette réunion que voilà, je devrais avoir l'établissement d'un projet personnel individualisé.
D'accord.
Et qu'il nous soit communiqué. Alors Sabine, le gros éléphant, c'est si, parce que quand même, avant de partir, on m'a dit, mais Madame Vidutelli, si vous appelez à 17h, le temps que le projet individualisé soit fait, elle sera couchée à 17h. Donc je me suis dit, mais je ne suis pas venue pour rien quand même.
Et c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer.
Voilà, tout à fait, tout à l'heure. Tout à fait. Et l'ancienne directrice là, du centre pour handicapés m'avait dit, Madame vous allez devoir vous battre. Et moi, je n'imaginais pas que ça serait si difficile.
Quelle est votre question, Claire ? Parce qu'on va marquer une pause. Posez-moi la question avant, s'il vous plaît.
Alors, ma question, c'est y a-t-il, admettons que sous des prétextes médicaux, on n'accepte pas de mettre Marie sur un siège de propreté, et si on n'arrive pas à la coucher à des heures plus tardives, quel recours j'ai ? Et je pense même à un projet d'enlever Marie, de partir dans un pays où il y a un bel art de vivre pour que je puisse prendre Marie et lui faire changer de vie. Parce que pour moi, c'est un mouroir. Maintenant, c'est devenu un mouroir.
On en parle dans quelques instants, Claire.
D'accord. Merci beaucoup, Sabine.
Oui, Claire, si je comprends bien, vous avez deux options. Soit obtenir un changement.
Oui.
Soit envisager de partir. Est-ce que vous avez, comme beaucoup de parents dans votre situation, pensé à la Belgique ?
Pas du tout. Et figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé.
Mmh.
Parce que mon problème, c'est que j'ai 62 ans et que je me rends compte quand même que c'est de plus en plus difficile. Marie m'a dit, il y a quelques semaines, elle m'a dit, elle voulait aller aux toilettes, je l'ai mise aux toilettes, je l'ai sortie parce que je n'ai pas de lèvres, personne, je n'ai pas envie d'en avoir un. Et elle m'a dit, maman, ne te casse pas le dos, j'ai encore besoin de toi.
Mmh. Et oui, c'est souvent la grosse inquiétude avec ces enfants différents, c'est quand on vieillit soi-même, et on se demande comment ça va se passer après, quoi, après nous.
Oui, voilà. Mm. Ah oui, c'est une grande inquiétude. Donc, figurez-vous qu'on m'a parlé justement de la Belgique. Alors, pourquoi vous me parlez de Belgique ?
Parce que beaucoup de parents qui n'arrivent pas à trouver de place en France ou qui ont des soucis se retournent vers des centres en Belgique qui sont plus nombreux et quelquefois, je dis bien quelquefois, pas toujours, hein, mais mieux organisés. Mm. Et on a très souvent des témoignages de parents d'enfants à handicap qui ont réussi à les placer en Belgique. Alors, ce qui est compliqué après, c'est les allers-retours.
Oui. Sabine, je n'imagine pas un seul instant. Je vais être à la retraite, là, en juin 2021. Mais je n'imagine pas un seul instant être si loin de Marie. Hein. Ce n'est pas possible. Moi, quand je vous disais que j'envisageais, hein, je ne vais pas faire ça n'importe comment, sans me renseigner, j'envisageais de partir, comme je l'avais fait pour le Maroc, dans un pays étranger. Alors, j'ai des amis qui m'ont parlé de la Thaïlande, où on peut acheter une maison ou louer une maison.
Oui, mais attendez, est-ce que vous avez quand même pris des renseignements pour savoir quel serait le suivi médical pour elle là-bas ?
Ben justement,
attention au fantasme de l'herbe plus verte ailleurs. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais en fait, ce que je voulais, c'est garder Marie avec moi, pouvoir avoir des personnes qui la masseraient.
À domicile, d'accord. Oui.
À domicile, quelqu'un qui ferait la cuisine, ce qui me dégagerait du temps. Après, c'est tout à fait vague.
C'est ce que j'allais vous dire. Attention quand même à ne pas idéaliser une autre vie ailleurs, parce que pourquoi pas ? D'abord, la première chose, c'est est-ce que vous pouvez en parler à Marie ? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut conceptualiser et accepter ou pas déjà ? C'est la première question.
Oui, je pense que ma mari, elle est quand même très intelligente. Je lui en ai parlé, pas le week-end dernier, le week-end avant. Je l'ai eu. J'ai dit, Marie, il faut qu'on parle toutes les deux. Elle m'a dit oui au lit. Et je lui ai dit, tu sais, Marie, avec papa, nous allons aller au centre parce que nous devons parler de beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas maintenant. Et tu sais, je pense même peut-être à un projet de partir dans un pays. D'ailleurs, tout à l'heure, elle m'a dit au Maroc. Ah, j'ai dit non, Maroc, le Maroc, c'est fini, Marie. Pour voilà, de te garder et de pouvoir m'occuper de toi et pouvoir te faire faire des activités,
oui,
etc.
Je comprends tout à fait.
Vous savez ce qu'elle m'a dit ?
Non.
Vous savez ce qu'elle m'a dit, Sabine ? Elle m'a dit d'accord, bonne idée.
Bon, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on ait des auditeurs qui aient vécu cette expérience-là, soient partis à l'étranger avec un enfant qui a un handicap, même si c'est un autre handicap que celui de votre fille. Ce serait intéressant d'avoir des retours de témoignages comme ça.
Ah oui.
Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je surveille les SMS depuis tout à l'heure, mais vous savez qu'il y a souvent un décalage aussi.
Oui.
Mais moi, je pense que c'est difficile parce que vous êtes la personne la mieux placée au monde pour savoir ce qui est bon pour votre fille. Est-ce que, dans le fond de votre cœur, vous espérez encore quelque chose de ce centre ? Est-ce que vous pensez que les choses vont changer et rapidement ?
Quelque part, j'espère. Du moins, le temps aussi d'arriver à la retraite. Bon, ma mère est âgée aussi, elle a 91 ans, donc je ne peux
pas
partir comme ça.
Et voilà, c'est à quoi je pensais.
Voilà.
Ah,
voilà.
Claire, on a un message très intéressant qui vient d'arriver pour vous de la part d'Amandine. Qui nous dit « Claire peut m'appeler demain, samedi, seulement entre 15h et 16h. Elle laisse son numéro de téléphone. Je siège pour représenter les personnes en situation de handicap à la CDAPH et à la MDPH et je peux la conseiller sur ses droits pour Marie. »
Ah, génial.
Merci mille fois, Amandine. Bien sûr, hors antenne, on vous transmettra son numéro. Voilà un contact qui pourrait vraiment vous aider et vous conseiller de manière compétente, en tout cas.
Ah oui, voilà, parce que c'est merveilleux, parce que c'est vrai qu'on se sent quand même très très seul. On sait pas, je ne sais pas à qui m'adresser. Alors voilà, j'essaie de déplacer moi-même l'éléphant, mais j'avoue qu'il est très lourd quand même.
Ben bien sûr, bien sûr. Et il y a tellement de parents dans ces situations-là.
Oui, oui. Et comme je disais à la réunion lundi, je disais mais nous ne sommes pas préparés à avoir des enfants handicapés. Je n'ai jamais eu d'aide.
Il n'y a pas d'école pour apprendre à gérer ça.
Non, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, c'est vrai.
Ouais. C'est vrai. Il faut retrousser ses manches et se battre chaque jour.
Oui. Oui.
Moi, je pense.
Ah, la vie. Oui.
Et en même temps, ce que vous disiez, c'est que quelle merveille, comme vous dites, c'est un soleil, ma petite Marie, ma grande Marie maintenant. Et tous les parents d'enfants handicapés disent la même chose. Ça apporte aussi tellement, ça nous rend tellement forts.
Et c'est Marie. C'est de l'amour, ce n'est qu'amour. Elle n'est qu'amour. Elle sourit, elle est heureuse, elle s'exprime. Mais moi, un jour, j'ai dit à mon mari, mais s'il lui arrivait quelque chose, j'ai plus envie de vivre. Quoi, Marie, c'est mon soleil, c'est notre soleil.
C'est pour ça que je pense, Claire, qu'il faudrait écouter votre cœur. Mais en même temps, si vous décidez de partir, il faut que ce soit vraiment... Réfléchis, j'allais presque dire une étude de marché, mais on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire choisir un pays où vous savez que les trajets sont faisables, où vous savez que sur place il y aurait une structure, quand même, parce que vous ne pourrez pas tout avoir à domicile. Et puis en cas de problème plus important, il faut être sûr aussi qu'elle soit prise en charge. Donc ça ne se fait pas sur un coup de tête, ça ne se fait pas sur catalogue.
Bien sûr.
Ça se fait avec le temps. Peut-être effectivement, il y a d'abord votre maman à accompagner aussi.
Tout à fait.
Les choses doivent se faire avec le temps, mais écoutez votre cœur, je pense que ça sera le meilleur conseiller.
Oui, oui. Voilà, le point d'interrogation, c'est qu'est-ce que le centre va décider. Et en fonction de ça, j'espère que ça va bouger. Mais ça me donnera aussi le temps de réfléchir à d'autres possibilités. Oui. Voilà. Mais j'avoue que s'il y avait des personnes qui... pouvez me donner des pistes, c'est vrai que je remercierai Amandine si elle a des pistes à me donner.
Alors vous savez qu'on n'a pas le droit de garder les coordonnées des gens, des intervenants comme vous, plus de 48 heures, mais ce qu'on va faire, c'est que là, vous n'allez pas raccrocher, je vais vous repasser Maxime, et vous lui laisserez votre mail, parce que quelquefois on a des réactions bien sûr de gens qui écoutent la Libre Antenne en podcast. Donc là tout de suite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous laisser le téléphone d'Amandine, ça c'est déjà la première urgence si je puis dire. Et puis, dans les jours qui viennent, je vous promets qu'on vous fera suivre les messages qui pourraient arriver pour vous. Je bute un peu, pardon, parce que je suis en train de lire en même temps un SMS qui vient d'arriver et qui dit, Dominique, qui dit, il faut penser à l'avenir. L'après, que deviendra Marie? Moi aussi, j'ai un soleil sur pattes, dit Dominique.
Ah oui, c'est ça.
Claire, je vous embrasse. Merci pour ce beau témoignage. Vous êtes une femme remplie de force, remplie de lumière.
Merci. Merci, Sabine.
Pardonnez-moi, oui. Il y a encore un SMS qui arrive là à l'instant. Alors, c'est Gaëtan, ça c'est intéressant, qui dit « Gaëtan, bonsoir, je suis Gaëtan, je suis autiste. Et auparavant, j'ai été en IME et en hôpital de jour. Et si Claire veut me contacter pour qu'on se parle, je lui laisse mon numéro de téléphone. » C'est Gaëtan qui souhaite échanger aussi avec vous.
Vous savez, ça me fait très plaisir parce que dans mon établissement, nous avons eu deux enfants autistes que vraiment j'adorais. Ça passait très très bien et avec plaisir.
Alors Claire, je vous embrasse très fort et j'aimerais que vous embrassiez Marie pour moi, s'il vous plaît.
Je vais le faire de suite, je vais aller lui faire un gros bisou.
Vous ne raccrochez surtout pas et je vous passe Maxime qui prend le relais pour tous ces numéros de téléphone pour vous.
Merci beaucoup de votre patience, de votre écoute surtout, de votre écoute.
Merci à vous Claire.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne soirée, bonne continuation, au revoir.